L'évêque de Lourdes se réjouit de la reconnaissance d'un nouveau miracle. C'est le 68e miracle de Lourdes. La guérison de la sœur italienne Luigina Traverso en 1965 vient d'être reconnue officiellement comme miraculeuse par l'évêque de son diocèse en Italie. Voilà, il est 15h04 sur France Inter. L'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut Daniel. L'Union européenne, prix Nobel de la paix. L'Union européenne, prix Nobel de la paix. Car l'Union européenne promouvoit la paix et la démocratie en Europe. Alors quand j'ai entendu ça à la radio aujourd'hui, j'ai halluciné. Moi j'ai une proposition, moi. Prix Nobel de la paix pour l'année 2012, Juan Manuel Gordillo, le maire de Marina Hidalgo. Car Juan Manuel Gordillo, à chaque décision, il demande l'avis aux habitants de Marina Hidalgo. Est-ce que l'Union européenne nous a demandé notre avis sur le traité de la stabilité, de la coordination et de la gouvernance européenne? Non, bien sûr. Et on appelle ça de la démocratie. Bon, bon, bonne fin de semaine, passez un bon week-end et chapeau au Fralib. Hein. Je suis tout cœur avec vous. Salut.
Bonjour, je viens d'écouter le reportage sur les Fralib. Je suis solidaire de ces gens et je comprends très bien leurs problèmes. Je veux aussi dire que des prolétaires au sens marxiste du terme, il y en a peut-être d'autres qui sont parfois en col blanc, mais qui sont sur des salaires extrêmement réduits et dont personne ne parle. Je parle de mes collègues, ceux du Crédit Immobilier de France, avec face à eux un État qui se comporte comme un fonds spéculatif, qu'il a fallu bouger au terme de lutte, et les colères sont les mêmes, et les angoisses sont les mêmes, et les difficultés à venir sont sans doute également les mêmes. Voilà, la solidarité est pour tout le monde. Bravo pour vos émissions et à bientôt. Au revoir.
Enfin, on avance. Pas de table ronde interminable, pas de voie compliquée. Du fric plein les caisses pour financer l'école, la santé, les retraites, le nombre de plans sociaux en chute libre, la fin assurée des licenciements boursiers. Comment ? Céline de Fralib qui nous le dit, simple, claire, concise. C'est eux qui virent, c'est eux qui payent. Bref, le principe du pollueur-payeur. Avec Lynn à la place d'Arnaud, peut-être bien qu'on se redresserait productivement plus vite. C'était Christine du Limousin.
Que les détenteurs d'œuvres d'art de plus de 50 000 euros se rassurent. L'État va leur laisser leur niche fiscale. Je suis au RSA, environ 400 euros mensuels par mois. J'ai 60 ans. Voici une des conséquences de la loi Sarko transformant le RMI en RSA, application en 2012. Comme tous ceux qui sont au RSA et qui ont réussi à faire un petit boulot en plus dans l'année, je viens de recevoir un avis d'imposition pour régler la redevance audiovisuelle, soit 125 euros. Je reçois ce joli cadeau car j'ai eu le malheur en 2012 de travailler pour la somme de 200 euros. Après déclaration à la CAF faite, cela me fait environ 140 euros net en plus du RSA pour toute l'année. Voici la réponse des impôts. Maintenant, avec les nouvelles lois RSA, si votre revenu n'est pas égal à zéro en dehors du RSA, vous devez payer la redevance. Ne pouvant faire de commentaires, mon interlocutrice qui découvrait comme moi cette loi m'a simplement dit « Mon pauvre monsieur, si vous ne pouvez pas vous payer la télé, supprimez-la. » Et son ton disait bien qu'elle était outrée, elle aussi. J'appelle de Corrèze, peut-être alors un peu plus près des oreilles du gouvernement. Il y a urgence. Il faut payer avant le 15 novembre, sinon c'est plus 10%. Faites passer le mot à Éric Cantona qui, lui, peut passer un coup de gueule pour alerter le ministre de toute urgence. Nous vivons environ avec la moitié du montant considéré du seuil de pauvreté en France. Mais nous, on ne peut pas s'appeler les pigeons, on est déjà plumés.
Salut Daniel, Solène, toute l'équipe et tous les AMG, c'est Pacôme de Montréal. Sortez vos agendas, chers AMG, car il est venu le temps de la deuxième édition du Café Repère ou Café Jazette, comme on l'appelle ici. Valentine nous accueille toujours à la Petite Cuillère, au 3603 rue Saint-Denis, ce vendredi 12 octobre à 19h. Le thème, Panoramix 2.0, le druidisme à l'ère de Facebook. La conférence sera donnée par Nicolas Boissière, doctorant en anthropologie à l'Université du Québec à Montréal, et sera suivie par une série de questions. Venez nombreuses et nombreux participer à cette conférence et apprendre comment, à l'heure actuelle, des gens pratiquent toujours le druidisme. Allez, ciao viva, portez-vous bien, comme dirait l'autre.
Oui, bonjour. On entend de belles dans votre émission, là. Alors, pour être de gauche, il faudrait être prolo, quoi. Il y a un gugus, là, qui s'est moqué de Cahuzac parce qu'il était cambriolé et puis qu'il avait un grand appartement. Mais Léon Blum aussi, on l'accusait de ça. On disait que Léon Blum, il mangeait dans la vaisselle en or, qu'il pouvait pas être de gauche. La moitié des prolos votent à droite ou à l'extrême droite. Ils votent pour Le Pen, les prolos. Et on entend des conneries comme ça sur votre antenne, là, mais il faut arrêter, là. Vous serez bien content quand Sarkozy va revenir. Maintenant, là-bas, si j'y suis, c'est uniquement contre Hollande. C'est uniquement que ça. On n'entend que ça en ce moment. Voilà. Vous avez perdu un auditeur, les gars. Ça est terminé, hein. J'en ai ras-le-bol d'entendre vos conneries, j'en ai marre.
Salut Daniel, c'est Léo. Écoute Daniel, ça fait plusieurs années que tu agis comme un véritable gourou sur ma mère. Daniel a fait ci, Daniel a fait ça, Daniel a montré ça. Elle est injoignable du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors écoute Daniel, c'est son anniversaire ce week-end. Alors si tu peux lui souhaiter un bel anniversaire à Sylvie de Marseille, je crois qu'elle en serait très heureuse. Merci pour la diffusion, au revoir.
Bon anniversaire, Sylvie de Marseille. Mais recommencez pas. Si vous demandez qu'on vous souhaite bon anniversaire des, tous les jours des 600, combien, 620 000 ou 650 000 que vous êtes, on ne va pas s'en sortir. Mais bon anniversaire, sincèrement. Chère Sylvie de Marseille, justement, on y va à Marseille, là. Enfin, à côté, à Gémenos. On est avec les Fralibes à nouveau. Mais auparavant, ce matin, aux Aurores, on était avec les Samsonites. Vous savez, ces ouvrières, ces anciens et anciennes salariées de Samsonite d'Hénin Beaumont, qui a fermé ses portes en 2007 et qui depuis se battent comme des lionnes pour faire reconnaître leurs droits, et qui, eh bien, se sont envolées ce matin pour l'Amérique. Pour l'Amérique, c'est-à-dire pour Chicago et pour New York. Pourquoi faire ? Eh bien, pour, pour plusieurs choses, parce que, d'abord, il faut dire que c'est un voyage qui est financé avec des dons de particuliers, de collectivités, mais parmi les dons de particuliers, ben, il y a les vôtres. Ça a très, très bien marché. Vous avez été très réactifs pour soutenir les ouvrières de Samsonite et pour leur permettre eh ben, de trouver les fonds nécessaires, de boucler ce dont elles avaient besoin pour ce voyage. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh bien, elles vont aller voir les gens de Bain Capital, ce fonds d'investissement dont Mitt Romney était le dirigeant, l'animateur, et qui est à la base de la fermeture d'une quantité d'entreprises dans le monde, en Europe et aussi aux États-Unis. C'est ainsi que l'usine automobile Sensata de Freeport, dans l'Illinois, dans le nord de l'Illinois, eh bien, a été délocalisée en Chine et il reste des gars sur le carreau. Et ils vont se retrouver, c'est-à-dire que les femmes de Samsonite vont retrouver ces gens-là, les gens des Américains. Voilà, c'est quand même un lien assez extraordinaire. Donc, elles sont parties pour 4 jours. On aura des nouvelles d'elles, on espère, à leur retour. Mais ce matin même, on était pour les accompagner à Roissy.
On est sauvés !
Aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, terminal 2A. On va retrouver les Samsonites qui sont prêtes à partir.
Si on va là-bas, c'est pour un but.
C'est la suite de votre lutte qui dure depuis 2005, 2007.
Ouais.
2007, c'est le moment où vous avez tout été licencié.
Voilà. Ouais. Et donc on a occupé, et puis ensuite on a attaqué les repreneurs, le prud'homme, le gros. Nous, on l'appelle le gros. Promené, parce que bon, bah, il s'est bien enrichi sur les personnes qu'il a licenciées, les entreprises qu'il a fermées. Hein, c'est comme ça qu'il a fait ses actions. Donc maintenant, on s'attaque à lui. Et les Américains sont prêts avec nous, on est prêts avec eux, on est avec eux. Que Nick Romney, bon, si les gens votent pour quelqu'un comme ça en sachant qu'il licencie, hein, il y a combien de malheureux aussi là-bas en Amérique. Donc les gens doivent quand même réaliser que quelqu'un comme ça au pouvoir, c'est pas bon pour eux, quoi. Lui, tout ce qu'il voit, c'est le pognon, c'est tout. Et puis le restant d'après, apparemment, pour moi, il s'en fiche des gens. Il se fout complètement des gens. Donc moi, si Obama y passerait, j'en serais bien contente. Parce que j'étais déjà contente quand il est passé la première fois. S'il repasse une deuxième fois président, ben j'en serais bien contente.
Voilà, évidemment, elles ont des valises Samsonite pour ce voyage aux États-Unis. On aura des nouvelles au début de la semaine prochaine, lundi. Merci donc. On part, nous, donc à Gémenos, à côté de Marseille, pour le deuxième volet de ce reportage sur Fralib. Vous avez, ça fait 2 ans, 750e jour de lutte pour les Fralib qui espèrent une partie du personnel qui est en voie de licenciement. Espère, s'accroche aux branches pour essayer de monter leur boîte, de monter une SCOP. Ils ont des atouts pour ça, ils ont des soutiens, y compris les soutiens des pouvoirs publics, ce qui n'est pas si fréquent, mais qui est quand même en partie dû à la campagne présidentielle que nous avons vécue ce printemps. Il manque un certain nombre de choses, à commencer par la bonne volonté de leur boîte, Fralib est liée à Unilever, et ces salariés qui veulent monter leur SCOP ont besoin évidemment d'avoir la marque de leur thé, parce qu'il s'agit de thé, vous avez compris, Fralib, le thé de l'éléphant. Et Unilever refuse, c'est une immense multinationale, refuse de leur concéder l'usage de cette marque. C'est pas le seul obstacle qui reste, mais c'est un obstacle majeur. Les autorités publiques françaises les soutiendront telles comme elles l'ont promis, à commencer par le chef de l'État. Il l'avait promis, c'est ce qu'ils espèrent. En tous les cas, la lutte continue et continue jusqu'à 16h dans la Bastille. J'y suis auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Parmi les nombreuses atteintes aux droits de l'homme sur cette planète, il en est un qui touche encore aujourd'hui 783 millions de personnes, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, c'est celui de l'accès à l'eau. L'eau n'est pas une marchandise, tel sera le thème du 10e Festival du Livre et de la Presse d'écologie, qui se tient ce week-end à la Bellevilloise, Paris 20e. Sera notamment présent parmi 40 auteurs pour grands et petits, Jean-Luc Touly, salutaire pourfendeur des multinationales de l'eau. Jean Mallory, qui nous fait l'honneur d'être parrain du festival cette année, donnera la conférence d'ouverture samedi. La Bretagne est aussi l'invité du festival, d'accès libre et gratuit. Alors, bretons et franciliens, on vous attend.
Bon ben salut, c'est Nick. Un petit message pour annoncer une table ronde sur la guerre d'Algérie, samedi 13, c'est-à-dire après-demain, de 5h30 à 6h30. C'est au 48 rue Vieille du Temple, à l'espace Blanc-Manteau, à Paris, dans le 4e. C'est ouvert à tous, l'entrée est gratuite et ça aura lieu au Salon des Revues, autour du livre d'Anita Fernandez, Mémoire d'une jeune fille engagée. Anita Fernandez, c'est une cinéaste et le premier film dont elle a fait le montage en 1962, c'est le fameux « Octobre à Paris » de Jacques Panigel sur la manif du 17 octobre 61 qui s'est terminée tragiquement avec les Algériens qui ont été tués par Papon dans la Seine. Anita va présenter samedi son récit qui est publié au numéro 51-52 d'Étoile d'encre. Étoile d'encre, c'est une revue semestrielle de femmes en Méditerranée et le thème de ce nouveau numéro d'octobre 2012, c'est Algérie 50 ans.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Françoise du repère d'Anner dans les Hautes-Pyrénées. Petit message pour rappeler que notre rendez-vous de ce mois-ci aura lieu ce vendredi 12 octobre. Au programme, le problème du plastique avec la projection d'un film de Werner Boot, Plastique Planète. Car ce matériau magique, s'il est commode, bon marché, est devenu incontournable dans notre vie quotidienne, puisque tous les secteurs de l'industrie mondiale en dépendent aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, il est pourtant aussi devenu un danger global, tant pour l'homme que pour la planète, symbole de surconsommation, de pollution à grande échelle. Le film sera projeté à 21h, précédé d'un casse-croûte vers 20h, comme d'habitude, et suivi d'un débat. Et la participation est libre. Voilà, nous vous attendons nombreux pour venir partager cette soirée.
Je suis Sophie Jaillet, responsable de la communication d'Unilever France. On vit sur des marchés qui bougent, qui évoluent.
Les gros patrons, pour eux le travail, s'ils nous donnent du travail, on doit fermer notre gueule. Et encore, on est content parce qu'ils nous payent des misères.
Et les entreprises sont parfois obligées de prendre des décisions difficiles.
On ne peut plus croire ces gens-là. Pour eux, la vie d'un ouvrier, c'est quoi? C'est 10 ans. Au bout de 10 ans, ils te jettent.
Mais quand bien même elles le font, ça doit être toujours les salariés au cœur de nos préoccupations.
Raison de lutter numéro 1, la fierté.
Résister.
Ne pas être un collabo.
Raison de lutter numéro 2, la dignité.
Raison de lutter numéro 19.
résister.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, j'y suis avec Kellor Van Wimersch. Fralib, dans Grève, il y a rêve.
Flight number 2, arriving from New York.
724e jour de lutte ici à l'usine Fralib de Gemnos, dans les Bouches-du-Rhône. Et en ce vendredi matin, la journée est un peu spéciale pour les employés de Fralib, puisqu'ils accueillent dans leur usine l'assemblée générale de rentrée, le grand meeting de rentrée de la CGT des Bouches-du-Rhône. On attend ici entre 5 et 600 personnes. Il y a du monde qui arrive là. Qui
ah ouais, là, ça y est, ça commence. Ça. Bah, il sait quand même que tu vas faire rentrer les voitures, ça va les gars. Ouais. Bienvenue chez nous.
On était avec Omar. Omar Damani qui est une des figures, comme plein d'autres, ici de la lutte à Fralib.
Raison de lutter numéro 1, la fierté.
Résister.
Pas votre coup. Raison de lutter numéro 2, la dignité.
Raison de lutter numéro 19, contre le mépris envers le
700.
Résister. L'avenir de
l'humanité. Combien 746, 747, 748e jour de lutte pour les Fralib de Gemnos. Non loin de Marseille, vous connaissez cette lutte, vous l'avez suivie, vous en avez entendu parler tout au long de ces 745 jours, mais enfin surtout au cours de la campagne présidentielle, avec ses enjeux, avec ses visites de M. Montebourg, de M. Hollande aussi, qui est venu les voir dans le cadre de la campagne et qui a fait des promesses et les soutiens qu'ils ont reçus de la région qui s'est rendue propriétaire des murs et de l'entreprise Fralib, une entreprise d'emballage de thé, une vieille histoire, une vieille entreprise qui date du 19e siècle, le thé, le port, Marseille, etc. Tout ça, ça allait ensemble, racheté par Unilever, qui, un beau jour, comme ça, s'en débarrasse. Alors, bien sûr, Unilever explique que c'est pour des bonnes raisons industrielles. On a les larmes aux yeux. Désolé, on est triste de devoir se séparer de personnel aussi précieux et aussi respectable. Mais que voulez-vous ? Nous sommes pragmatiques. Ce qui veut dire que vous autres là-bas, qui voulez rester absolument dans votre boîte et vous accrocher aux branches, vous êtes des idéologues. C'est pas la même chose. Il y a le pragmatisme d'un côté, c'est-à-dire l'évidence et à laquelle il faut se rendre. Vous savez à quoi il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire face à l'évidence ? Il faut se rendre à l'évidence. Et puis, il y a ceux qui rêvent encore et qui sont des archaïques, qui ne comprennent rien à rien. Et pourtant, c'est bel et bien cette lutte-là qui dure et qui perdure. Ils ne lâchent rien. Et c'est le moment crucial maintenant. On va voir si effectivement ils y arrivent, ils arrivent à monter leur scope, s'ils ont le soutien promis par les autorités, par les pouvoirs publics et par le gouvernement. Hier, une des Fralib, parce qu'il y a des femmes bien sûr impliquées dans cette affaire, disait ne pas leur tenir tête, c'est leur donner raison. Beaucoup de phrases formidables ont été entendues hier et vous allez en entendre aujourd'hui, pas seulement des phrases, mais des idées. Pourquoi si formidable ? Pourquoi si pointu ? Eh bien, c'est à cause de ces 745, 46, 47 jours de lutte. Ça fait réfléchir, ça fait parler, ça fait écouter, ça fait qu'on se renseigne, qu'on s'informe et qu'on a un discours, une expertise, une opinion qui s'est construite avec le temps, avec la lutte. Et c'est très, très précieux, je pense, de les écouter, de les entendre jusqu'à 16 heures. Ne pas leur tenir tête, c'est leur donner raison. Fralib, dans Grève, il y a rêve.
Le boulot ce matin, y en a pas. Le boulot ce matin, y en a pas. Même si tu veux travailler, il faudrait qu'ils veuillent bien embaucher. Le boulot ce matin, y en a pas. Le boulot ce matin, y en a pas. Le boulot ce matin, y en a pas. Faut attendre et patienter qu'on veuille bien t'acheter la journée. Le boulot ce matin, y en a pas. matin, il n'y en a pas. Le boulot, ce matin, il n'y en a pas. Ils disent pas de chance, pas de beau. Il aurait fallu venir plus tôt. Le boulot, ce matin, il n'y en a pas.
Oh bonjour à tous. Nous sommes fiers et heureux d'accueillir ici, dans notre usine, le meeting de rentrée de notre union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire l'historique de nos 724 jours de lutte. Pour la plupart d'entre vous, vous avez été à nos côtés pendant ces deux années, et tout particulièrement lorsqu'il a fallu reprendre possession de notre outil en mai, afin d'empêcher une île verte de démanteler notre usine, ce qui aurait eu pour conséquence d'anéantir notre projet alternatif. Aujourd'hui, la situation est la suivante. La communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole est devenue le nouveau propriétaire des bâtiments et des terrains sur lesquels nous nous trouvons. Unilever a été contraint de lui céder la totalité de l'outil industriel pour l'euro symbolique. Mais il n'échappera à personne que nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour fêter la victoire finale. Si nous avions l'intention d'ouvrir ici même le musée de l'ex-usine Fralib, le but serait atteint. Notre lutte est juste et légitime. Nous défendons l'emploi, nous défendons notre potentiel industriel, nous défendons le droit de travailler pour faire vivre nos familles. N'est-ce pas une somme de combats juste? Nous sommes entrés en résistance depuis 724 jours contre la multinationale Unilever. En résistance contre les actionnaires qui, à la différence de ce que certains prétendent, ont un nom, un visage, un pédigré, une fortune, et qui, par leur appétit insatiable de richesse, provoquent des ravages dans le monde. Nous n'acceptons pas une telle injustice. Alors oui, nous résistons depuis 724 jours, et nous avons décidé de construire notre avenir. Nous nous battrons sans relâche pour avoir la fierté de dire un jour, tous ensemble, l'éléphant est français, en Provence, il est resté.
Thé de Ceylan, vanille. Thé du Kenya, pêche. Thé d'Assam, poire. Avec éléphant, partez à la quête des grands thés d'origine parfumée. Avec éléphant, découvrez le secret des mélanges les plus fins, des parfums les plus fruités. Les thés d'origine parfumée d'éléphant, ils méritent le voyage.
Allez, go.
Donc on est avec Henri, Henri qui s'est laissé pousser la barbe à la date de la fermeture, c'est ça, hein, à la date de l'annonce de la fermeture de l'usine.
À la date du 28 septembre 2010, ça a commencé par un demi-centimètre et puis après, voilà.
Elle est à 20 centimètres, tu l'as pas coupée depuis?
Non.
Quel était ton poste dans l'entreprise Fralib?
Alors mon métier, moi, c'est la logistique, je suis magasinier cariste, j'expédiais à l'époque tous les produits finis de l'usine. J'ai 51 ans et demi. À l'âge que j'ai, je ne retrouverai pas un emploi aussi facilement comme je le crois. Mais bon, dans une entreprise classique, on peut reconnaître mes compétences. Mais on se dit, 50 ans ou plus, il y a toujours des difficultés physiques qui vont venir. Et donc on se méfie et les entreprises n'embauchent plus.
Pourquoi ne pas être parti avec la prime de départ?
Comme je ne mise pas sur l'effet de capital, je préfère mieux miser sur le travail qui est beaucoup plus riche. C'est une richesse qui est constante. Le travail, c'est une façon d'être reconnu dans notre société. Par contre, quand vous êtes chômeur, c'est plus la même chose. Vous avez une compétence et vous devez pouvoir la mettre en œuvre dans cette société. Sauf qu'aujourd'hui, s'il y a 3 millions de chômeurs, sinon plus, c'est bien parce qu'on est en train de détruire nos emplois industriels. Nous, si vous voulez, on va même au-delà de la préservation de notre travail, c'est la pérennisation de l'outil industriel sur le site de Gémenos et surtout un futur possible pour nos enfants. On sera les instigateurs de cette SCOP par rapport au statut, justement. On les mettra de telle manière qu'on ne pourra pas casser l'outil industriel. Le but du projet, il est là aussi, c'est de pérenniser, de fixer les emplois en France.
Et pourquoi vous y croyez, Henri, à ce projet de SCOP?
Pourquoi j'y crois? Ben parce que déjà, d'une part, au vu de la morosité ambiante et de la situation de mon pays, j'estime qu'à un moment donné, il faut faire des propositions. Et moi, cette proposition, ben, c'est celle-là. Comme en d'autres lieux, en d'autres époques, qu'au sorti de la guerre, il y a eu le CNR qui a fait des propositions, justement, sur...
Conseil national de la résistance.
Qui a fait des propositions sociales. Ben, M. Croizat, Ambroise Croizat, qui a inventé la sécurité sociale, la retraite. Et donc, c'est des résistants communistes qui ont fait ces propositions-là, qui aujourd'hui bénéficient à l'ensemble de la population. Mais nous, on est dans une démarche aussi pareille. On fait nos propositions et peut-être que demain, ça sera un modèle à suivre.
Alors, dans cette histoire, vous vous en souvenez probablement, les pouvoirs publics sont intervenus. Le président socialiste de la communauté urbaine de Marseille est intervenu, a usé de son droit de préemption, affirmant qu'il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation dans notre pays, et qu'il y a, on peut tout à fait soutenir, les pouvoirs publics peuvent tout à fait soutenir, et même soutiennent, ce projet de SCOP. Rencontre avec Eugène Casselli.
Je crois que Fralib, les Fralib et l'outil industriel Fralib méritaient qu'une communauté urbaine qui est en charge le développement économique fasse tous les efforts nécessaires pour arriver à une solution industrielle.
La communauté urbaine de Marseille, donc vous, s'est investie sur ce dossier en rachetant notamment terrain et bâtiments. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Nous avons usé de notre droit de préemption, celui que nous donne la loi, et la communauté urbaine était la seule collectivité qui pouvait le faire. Et donc nous avons préempté le terrain, c'est-à-dire nous avons acheté à la fois le terrain et les locaux industriels pour 5,3 millions d'euros. Nous avons voulu montrer avant tout qu'il n'y avait pas de fatalité à la désindustrialisation de certains territoires. Et lorsque une collectivité peut ou a les moyens d'intervenir, eh bien, elle se doit d'intervenir. Et notre rôle, là, ça a été de donner le temps au ministère du redressement productif, c'est-à-dire au gouvernement, pour maintenir l'emploi industriel, sauver les emplois existants.
Alors, le projet des employés des Fralib, on va les appeler, des employés de Gemnos, de cette usine, est de former une SCOP, une coopérative ouvrière, pour continuer l'activité. Est-ce que vous y croyez à ce projet? Est-ce que vous le soutenez?
Bien sûr, nous soutenons le projet de SCOP, mais le problème majeur, c'est qu'Unilever ne veut pas faire les efforts nécessaires pour que cette SCOP soit véritablement viable. C'est-à-dire, Unilever refuse à la fois de céder la marque Éléphant, qui est une marque marseillaise à l'origine, puisqu'elle a été créée tout près de la Canebière. Et elle ne veut pas non plus donner pendant 5 ans le contingent nécessaire de matières premières, c'est-à-dire le thé, pour pouvoir continuer l'activité. Et si Unilever ne revient pas sur la décision qui est la sienne et qui a l'air définitive, ça sera difficile. Mais dans le cas d'Unilever, je crois qu'on est dans une situation où vraiment, je crois que l'employeur a tort. L'employeur a vraiment tort parce que là, il s'agit d'un redéploiement, il ne s'agit même pas d'un licenciement boursier. Alors qu'il s'agit d'une entreprise qui était rentable, il abandonne des pans de territoire en Europe pour aller s'installer sur d'autres qui lui paraissent mieux adaptés à son activité et probablement, bien sûr, à ses bénéfices éventuels. Bon, leur argument, c'est qu'il s'adapte au marché tel qu'il est et qu'il ne s'agit pas du tout d'un licenciement boursier. Donc c'est très compliqué, effectivement, légalement, de pouvoir aller contre ça. Mais 130 salariés, petite usine. Et de l'autre côté, un géant qui gagne 4 milliards d'euros. Où est la justice sociale?
À Lyon, les usines Berliet qui travaillaient pour les Allemands ont été sévèrement atteintes par les bombardements alliés. Monsieur Robert Lacoste, ministre de la production industrielle, est venu sur place se rendre compte des résultats d'une expérience passionnante. Au lendemain de la libération, on a arrêté Monsieur Berliet. Mais on n'a pas pour cela arrêté les usines. Bien au contraire, en l'absence forcée de M. Berliet, la direction est assurée aujourd'hui par les techniciens et les ouvriers de l'entreprise. Et ils ont montré qu'ils savaient prendre leurs responsabilités, reconstruire et produire. Sous cette nouvelle gestion où les ingénieurs, la maîtrise et les ouvriers travaillent côte à côte, une grande œuvre a été entreprise avec courage et avec joie. On répare tant bien que mal les ateliers éventrés. Les ouvriers sacrifient des samedis et des dimanches pour remettre en état locaux et machines. Le triomphe d'une idée hardie et peut-être d'une économie nouvelle est au bout de cet effort collectif. Il faut prouver que les travailleurs aiment leur travail quand ils peuvent l'aimer, quand ce travail est fait par eux, pour eux et pour le bien commun. La preuve est faite. Aujourd'hui, les usines Berliet sans Berliet sont remises en marche et tournent pour le pays en guerre.
Alors un document passionnant, hein, ce qu'on vient d'entendre là. Monsieur Caselli, Eugène Caselli, président de Marseille, Provence, Métropole, a parlé de droit de préemption, qui est le privilège de cet organisme. Mais après la guerre, juste en 44, eh bien, il y a eu des réquisitions. Et ce qui vient d'être évoqué là, c'est une réquisition aux usines Berliet, qui sont mis sous séquestre, car on reproche à Marius Berliet de s'être empressé de fabriquer des camions pour l'armée allemande durant l'occupation et d'avoir refusé de saboter l'usine pour la rendre inopérante et donc de refuser d'aider l'Allemagne. Et par conséquence, il y a cette réquisition et pendant plusieurs années, de 44 à 49, eh bien, il y aura une forme d'autogestion. C'est assez curieux, d'ailleurs, le mot n'est pas du tout employé par les Fralib, tant pis. Bon, enfin, ça revient à ça, à ce que les ouvriers eux-mêmes dirigent, s'occupent et font marcher l'entreprise. Ça marchera jusqu'en 1949, date à laquelle Paul Berliet, le fils de Marius Berliet, reprendra la direction de l'entreprise, ce qui est à rapprocher des réquisitions de Marseille. Là, ça, c'est au Brac dont il est question, bien évidemment. Qui à cette époque, en tant que responsable de la République, commissaire de la République de Marseille, eh bien, va mettre en œuvre des réquisitions et une direction par les ouvriers eux-mêmes de la marche des entreprises. Donc, on voit qu'il y a des précédents, et donc, bien sûr, on n'est pas dans une situation comparable à celle de la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit bien que c'est la même démarche. Il y a quelque chose là en commun. On retrouve les ouvriers de Fralib, les salariés de Fralib, ou plutôt les ouvrières et les salariés, eux, de Fralib.
Élodie Grouch, je travaillais au service finance de la société Fralib. Et en plus, en étant assistante contrôleur de gestion, je connais les coûts. Je sais ce qu'une e-lover se gagnait. Il n'y a pas de souci, il se faisait beaucoup d'argent sur notre dos. Malgré ce qu'ils disent, il n'y a pas de souci, l'entreprise était rentable.
Donc elle peut continuer à l'être, en fait.
Oui, largement, largement. Parce que l'argent qu'on ne donnera pas aux actionnaires, ben, on le mettra dans les investissements, dans le développement, pour trouver des nouveaux produits. La plupart des grands groupes maintenant, leur politique d'investissement, ils la sabrent, puisqu'il faut toujours donner plus aux actionnaires. Donc même ça, ils sont même plus capables de le faire maintenant. Donc on en arrive à des aberrations, quoi. Et on marche sur la tête.
Voilà, on arrive à l'usine, sur le parking.
Mon bureau, c'est celui-là. Voilà, c'est un open space. Voilà, c'est un très grand bureau.
Et alors là, on est dans le bureau qui est vide maintenant. Les administratifs sont partis, à part vous et quelques-uns. Comment, dans ce projet de Scope, vous allez pouvoir repartir, même avec plein de bonne volonté? Il faut quand même des compétences administratives pour gérer une si grosse société.
Comment non, ça après on embauchera. On sera obligé. C'est super, je trouve. C'est merveilleux quand même. On a la place de pouvoir embaucher. Tout faire pour que ça marche.
Pourquoi c'est la bonne solution, la SCOP, la coopérative ouvrière?
Je pense que c'est, à l'heure actuelle, la parade au libéralisme parce que les grands groupes n'ont de cesse de faire des économies et de ne surtout pas redistribuer les richesses. C'est impressionnant de voir tout ce qu'ils sont capables de faire pour gagner de l'argent, mais en plus au détriment des consommateurs.
Mais vous, Fralib, si vous continuez en tant que Scope, vous allez avoir besoin, comme sous-traitant, d'Unilever pour racheter votre production.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que pendant un certain temps, ils nous donnent à faire les volumes de l'éléphant, hein, du thé de l'éléphant, pour que nous, on puisse après créer nos propres débouchés.
Voilà. Ça, ils voudront jamais.
Ils ne voulaient pas nous donner les machines, ils ne voulaient pas nous donner les locaux. Et puis, oui, on les a maintenant. Donc, la lutte, hein, c'est comme ça, hein, c'est un bras de fer. Hein. C'est, oui, ils ne veulent pas, oui, maintenant. Ils nous disaient aussi que notre projet était utopique. Maintenant, ils ne le disent plus. Hein. Donc, voilà, je veux dire, oui, mais les choses évoluent. C'est un rapport de force.
Au nom du business et du pognon roi, on envoie dans le décor des années de boulot et de mensonges à mon endroit, sans le moindre remords. Y'a pourtant le taf et le savoir-faire, tout est là pour continuer. La clé sous la lourde et la tête à l'envers, on peut l'éviter. Mais ils n'ont pas fait assez de pognon sur mon dos, et même si son salaire fait quelques quatre fois le mien, mon tout petit mini-chef a pourtant fait le sale boulot pour des actionnaires qui, eux, demain dormiront bien. On m'avait dit que patron du Unilever, ça rimait avec menteur. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, je peux le vérifier. Ils sortent d'une école dont ils sont très fiers, prêts à tout pour exister. What a manager, ils vendraient leur nez pour y arriver. Ils ont tout fait tout pour préparer la casse, et que demain tout s'arrête. Pourtant ils font du fric à chaque minute qui passe, on marche sur la tête. Faut rien attendre de ces pourris, ces faux culs. Ils n'ont pas de sentiments, pas de cœur et pas de vie. Ils nous prennent de haut avec un air de m'as-tu vu. Pour avoir tout donné, c'est comme ça qu'on te dit merci. On m'avait dit que patron du Nil, ça rimait avec voleur. Aujourd'hui encore et plus que jamais, je peux le vérifier.
Surtout, j'ai dit 10 de plus, c'est pas le valet ou
et
le.
Pour moi, t'as pas de pic, Marc.
Ah, 72.
72
Ouais, c'est ça, ouais.
Et oui.
72, eh ouais, 2 as, c'est 2 10.
Le valet. 2 10, le valet.
Eh ouais, 2 10, c'est sûr. Hein, c'est ça, le qui.
T'as surcompté. Bravo, les gars.
Ça va être belle, la scope.
Ouais.
Allez, elle va être belle la scope. Hein.
Qu'est-ce que vous faites là?
Hein? On tue le temps. Ouais, ouais. On est à jour, nous, on est ok, nous. Nos services techniques, il n'y a pas de problème. Prêt à repartir. Petit mois pour nous mettre à jour. Partir, en fait. Et après, c'est bon.
Joue à quoi comme jeu?
Contré.
Ça vient à toi. Allez,
ça vient à toi. Allez, arrête. Allez, qui, hein, sérieux là?
Pourquoi vous dites elle va être belle la scope?
Elle va être belle. Bien sûr que va être belle.
On se remet à travailler, ça ferme. Hein. Ouais. Il va y avoir des étincelles, il va y avoir.
Il va y avoir des étincelles.
Ah oui. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus trop travaillé. Du coup, ça va nous faire du bien un peu de reprendre l'activité.
Ah ben voilà, ouais, on a le gonflé à bloc. Toutes ces machines à 7,5 millions d'euros qui dorment depuis 2 ans,
je sais,
ça fait un peu de la peine quand même.
Hein. Vous faisiez quoi, vous?
Technicien de maintenance.
Mais bon, j'avais que la beauté.
Je me suis douté que tu as la belote, mais bon, toi.
Il faut que tu puisses revenir, quoi.
Ouais.
Je puisse monter sur toi.
Ouais.
Qui gagne là?
La
4.
Moi et Jean.
Comment vous appelez?
Hervé.
Vous jouiez souvent à la contrée au jeu de cartes avant?
On jouait, ouais, maintenant, c'est qu'on a plus de temps pour jouer. Ouais. On devenir bon maintenant.
Et pourquoi? Parce que vous gardez l'usine?
Voilà, ouais. Tous les jours, là.
Il y a moi
24 sur 24.
Donc, l'après-midi, quand il fait un peu chaud.
On tourne quoi. Voilà, l'après-midi, quand on tue le temps, là, on joue un peu aux cartes, on fait un tour dans l'usine, on peut surveiller. À moi.
Allez, allez.
Allez, allez.
Ah, ça coupe.
Rebelote. Oh, tu as le droit de mon jeu.
Tu es vraiment un escroc, toi.
Je balance.
C'est quoi votre prénom?
Marc.
Vous aussi, vous avez encore la foi?
Oui, j'ai toujours eu la foi, moi, depuis le début.
Pourquoi ça?
Parce que c'est nous qu'on faisait tourner cette usine, c'était pas ceux qui nous ont foutu dehors. Donc nous on a la foi parce qu'on n'a pas besoin d'eux. On coûtera moins cher.
C'est la première qu'on fait là.
Et vous serez mieux payé.
On sera payé pareil, tiens.
C'est pas le but, hein.
Le but, c'est travailler.
Ouais.
Et si on peut travailler ensemble dans les bonnes conditions.
Exactement.
Et comme, comme le ménage s'est fait tout seul, on aura l'avantage de travailler qu'avec des gens qui sont impliqués. Ouais. Donc on a espoir justement que tout le monde se mette à bosser dans les bonnes conditions. Et
le ménage est fait.
Comme on dit, mouille le maillot.
Hein. Ah bah voilà. Déjà
c'est une opportunité.
Alors 80.
On le prend comme ça.
Carreau.
Du bois à cœur.
Oh, je l'ai.
90.
Attends, qu'est-ce que c'est?
80
quoi?
Résister,
carreau. 80 carreaux. Et toi?
90 cœur.
10 points cœur.
110 carreaux.
110 carreaux.
Contre le mépris envers les
résister. L'avenir de nos enfants.
Raison de lutter numéro 13.
Refuser les délocalisations.
Marre d'être exploité.
Contre le mépris envers les ouvriers.
Se débarrasser d'une direction.
Avec les Fralib, Gemnos qui continuent leur combat. C'est vrai que s'ils arrivent à faire leur SCOP, une société coopérative de participation, ben ils n'auront pas d'actionnaires à indemniser. Ils n'auront pas de dividendes à verser. Voilà. Il n'y aura peut-être pas une direction avec des salaires prohibitif, c'est possible. Donc effectivement, c'est pas faux de dire on se coûtera moins cher. Et il faut savoir qu'il y a environ 2000 SCOP en France qui marchent très bien pour 50 000 salariés dans ce pays fonctionnent sur ce système de la SCOP. Il y a beaucoup d'autres formes coopératives de travail en France et en Europe qui sont d'autres gestions que la gestion purement capitaliste. Même si évidemment, une entreprise comme ça doit composer, doit faire avec le monde alentour. C'est l'éternelle histoire. Est-ce qu'on peut faire un îlot d'égalité dans une marée capitaliste ? C'est l'éternelle question. Vous vous souvenez peut-être de ce reportage qu'on avait fait au Pays de Galles sur Tower Colliery, cette mine où que les mineurs avaient acheté eux-mêmes avec leurs indemnités. Ils avaient remonté leur mine et ça a tenu un certain nombre d'années et puis après, voilà, c'est devenu autre chose, mais il y a eu un élan là aussi formidable, ça mérite d'être vécu, ça mérite d'être étudié et ça peut tout à fait fonctionner aujourd'hui, ils ont vraiment, il y a leur entêtement, il y a leur détermination, il y a leurs compétences, indéniablement, il faut un coup de pouce des pouvoirs publics et que ceux-ci tiennent leur parole.
On peut aller s'asseoir.
Et Omar, qu'est-ce qu'elle a spécial votre lutte?
Qu'est-ce qu'elle a spécial notre lutte? Ben, elle a beaucoup de choses spéciales déjà. C'est pas évident d'en parler comme ça, mais moi je pense que la première chose qu'elle a de spéciale, c'est pourquoi certains salariés continue à se battre avec les milliers de l'euro qu'ils ont mis sur la table Unilever. Nous, pas une seule fois, on a négocié un seul euro. Nous, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait dès le départ, c'est l'emploi. L'emploi. Voilà. On a fait le choix d'aller vers une SCOP. Pourquoi ? Parce que c'est bien de pouvoir se réapproprier la richesse industrielle. Ça, c'est une chose très importante, parce qu'aujourd'hui, les gros groupes comme Unilever, ils ferment. Vous avez un autre repreneur qui va venir et qui va revendre un autre gros groupe, ou alors si c'est pas déjà un gros groupe. Et c'est retourner, en fait, comme reculer pour mieux mourir, quoi, pour ainsi dire. Parce que finalement, vous allez avoir un repreneur qui risque de vous faire exactement la même chose que ce que vous fait Unilever, 2 ou 3 ans après. Et vous allez passer comme ça d'un repreneur à un autre, et d'un gros groupe à un autre. Et aujourd'hui, si on a décidé de partir sur une SCOP, on pense que la SCOP peut très bien marcher. On a vu dans les pays d'Amérique latine, parce qu'on s'aperçoit que la SCOP, quand elle a tenu un an, elle a 70% d'être viable et d'être pérenne. Et ça, c'est quand même vachement important pour l'ouvrier, parce que le salarié qui va se retrouver salarié associé, est-ce qu'il va avoir le même état d'esprit que quand il travaillait avec un gros groupe comme Unilever, qu'on sait qu'on remonte des millions de dividendes, et comme ils ne répartissent pas les richesses, et comme ils ne partagent rien du tout de tout ce que nous, on crée, parce que c'est nous qui créons les richesses, c'est ça qui est vachement important. La répartition, il n'y en a pas pour eux. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas, on veut pas créer une SCOP pour s'enrichir. On veut créer une SCOP pour justement faire que l'outil industriel, on puisse réinvestir dans cet outil industriel et faire en sorte de pouvoir embaucher. Merde. On se retrouve à 3 millions de chômeurs aujourd'hui, c'est normal. Au nom de quoi? Il y a 1500 personnes qui sont archimilliardaires en France et vous avez 3 millions de chômeurs. Au nom du capitalisme, il y a 3 millions de chômeurs. C'est pas parce que on peut nous servir tout ce que vous voulez, les idées du Front National de merde, en disant, ouais, c'est les étrangers qui prennent le travail. Mais c'est pas vrai, tout ça. C'est le capitalisme qui bouffe le boulot. C'est-à-dire, au nom de la rentabilité, ils ferment des usines pour aller faire de la rentabilité ailleurs. Et c'est pareil pour Peugeot, et c'est pareil pour Renault, et c'est pareil pour un tas de sociétés, un tas de gros groupes qui vont faire des bénéfices ailleurs au lieu de venir les faire en France. C'est ça qui manque aujourd'hui en France. Combien d'usines sont devenues des friches? Combien d'usines sont devenues des marchés? Pourquoi? Parce que les usines ferment les unes après les autres. Et l'État aujourd'hui, il faut faire ce qu'il faut pour arrêter tout ça. Il faut faire des lois. Il faut que les groupes, ils arrêtent de le fermer au nom de licenciements boursiers, au nom de la rentabilité, au nom du capitalisme. Il faut qu'ils arrêtent tout ça.
Raison de lutter numéro 1, la fierté.
Résister.
Ne pas être un collabo.
Raison de lutter numéro 2, la dignité.
Raison de lutter numéro 19, raison contre le mépris envers les ouvriers.
Résister.
L'avenir de nos enfants.
Raison de lutter numéro 13.
Refuser les délocalisations.
Marre d'être exploité.
Contre le mépris envers les ouvriers.
Se débarrasser d'une direction.
Se débarrasser d'une direction incompétente.
Résister.
La victoire est possible.
Donc je suis Sophie Jaillet, responsable de la communication d'Unilever France et en l'occurrence porte-parole de la direction de Fralib.
J'ai amené avec moi un document qui est vous connaissez peut-être, le code de principe de conduite des affaires d'Unilever, édition 2011-2012, qu'on trouve sur votre site internet. Et il y a notamment un petit texte de Paul Polman, qui est le directeur général d'Unilever Monde. Je vous en lis un extrait. Unilever s'est forgé une réputation de conduire ses affaires avec intégrité et dans le respect de ceux qui sont concernés par ses activités. Aujourd'hui, nous croyons toujours que le succès signifie agir selon des règles de conduite répondant aux exigences les plus hautes envers nos salariés.
Le code de conduite des affaires contient des principes fondateurs. Et tout au long du projet difficile de la fermeture de Gymnos, le reclassement, l'accompagnement des salariés pour qu'ils aient la meilleure solution d'emploi possible, a été au cœur de nos préoccupations. Après, comme le dit également ce code, on vit sur des marchés qui bougent, qui évoluent, et les entreprises sont parfois obligées de prendre des décisions difficiles. Mais quand bien même elles le font, ça doit être toujours dans le strict respect de ces principes, avec toujours des salariés au cœur de nos préoccupations.
On baisse là un peu, ouais. Parce que là, on est dans le jardin, faut expliquer, entre les bâtiments de l'usine et les bâtiments administratifs, c'est ça?
Voilà, oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, moi, c'est Frédéric, 15 ans de boîte à la fin du mois. Pour moi, il n'y avait pas d'autre alternative que de dire non, je ne suis pas d'accord. Moi, mon travail, il est ici, ma vie, elle est ici, avec ce que j'ai mis dedans avant et ce que je veux y mettre pour les années qui vont arriver. Le chemin est encore très long, hein, parce que même si on arrive à ouvrir cette SCOP, le plus dur, c'est tout ce qu'on a obtenu et tout ce qu'on donne comme espoir aux gens, et il va falloir l'assumer et montrer qu'il y a quand même une autre idée de la vie qui est possible, quoi. La confiance, elle est sur le fait qu'on continuera à travailler ici. On va reprendre le travail ici. Pour moi, la grande victoire, c'est de la pérenniser et surtout derrière, d'embaucher des gens. Ben disons que plus avoir de patron, déjà le patron, il n'avait pas trop la notion de ce qui se passait à l'intérieur de l'usine et surtout ce que l'ouvrier met dans cette usine, quoi. Quand on est derrière un bureau, derrière un ordinateur, bon, enfin voilà, on ne connaît pas toute la difficulté qu'il y a à pouvoir produire. Je crois que ça sort comme ça. Donc le fait de ne pas avoir de patron, ben d'un côté, ça enlève une épine dans le pied, quoi. Ceux qui sont sur le terrain, ce sont les ouvriers. Donc à partir de là, quand les décisions elles seront prises donc collectivement, et on sait de quoi on parlera et on sait pourquoi on le fera et qu'est-ce qui sera le mieux surtout pour la suite. Après, il faudra quand même quelqu'un, mais pas dans le sens patron où on l'a eu sous l'air Unilever.
Ce serait quoi, ce patron ?
C'est pas du tout l'idée du gavage, de l'enrichissement personnel. Ça, ce sera plus possible pour un patron dans le cadre d'une scope. Non, c'est pas, ça va pas avec.
Tu la rêves comment, cette usine, par exemple ?
Comment je l'imagine, à redémarrer ? Bah déjà, avec une odeur qui me rappelle à l'époque où tout était naturel, quoi. Déjà, pour commencer, le bruit des machines qui, même si ça nous a donné des maux de tête pendant quelques temps, rien que d'entendre les machines tourner, ça va être un soulagement. Je vois bien, ouais, une usine qui vit, quoi. Qui revit, ouais. Qui revit, ouais. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche de la victoire.
Tous les soirs, ma pousse démaille, les mérés nouillés, si elles sont bourrées, aïe, mes manja bouet, vous êtes faille, les jours finis, la sma oubliée, l'ou finien de tchi, l'ou gourmand de tchi, en des toutes, en des avias, les jouvets, maille, les lidis, ou patin bédeur, pervers, couta, des milleurs à la paix. Basta que l'ou, marté ou procu, les deckets, chicara, mes gaffins, que ce pas finien, que ce pas gourmand, qu'un tronc des dieux, l'ouculé, que ce pas finien, que ce pas gourmand, qu'un tronc des dieux, l'ouculé. Ah, le godet, naïs et canaille, les fans du paoulou brillé ma soum, père, qu'est-ce qu'il passe, on t'y débraille, tu négocies un mode un balou, y'a eu tant qu'on va, ça qui est vida, ça qui est tchala, ça vieux wag des plombs, voit des milliers particuliers, dis là où lié ou fat, tu galou, reste lié. Mais il faut que qui est si mes yeux, les sommes et ma vie, va capella, que ce pas fainéant, que ce pas gourmand, qu'un tronc des dix louculés, que ce pas fainéant, que ce pas gourmand, qu'un tronc des dix louculés.
On a eu un premier investisseur qui était prêt à porter 350 000 euros. Notre projet intéresse des gens, ça veut dire que ce n'est pas une utopie. Je veux dire, on n'est pas des doux rêveurs, on ne s'est pas levé un matin en disant « bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, donc on va faire ça ». Non, on a fait ça parce qu'on sait très bien qu'on peut prendre cette usine en main. Deux ans plus tard, on se retrouve avec beaucoup plus d'investisseurs. Le dernier investisseur qui est venu était prêt à mettre 15 millions d'euros. Donc, vous allez m'expliquer comment quelqu'un, un investisseur, que c'est son métier, il dit, moi, je crois à cette entreprise, je vais mettre 15 millions d'euros dedans. Et à côté, vous avez une Unilever qui dit qu'on est des doux rêveurs. Nous, ce qu'on veut prouver en reprenant la SCOP, parce qu'on ne veut pas prendre la SCOP pour devenir nos propres actionnaires et se gaver. L'idée, elle n'est pas là. Je veux dire, on se bat contre le capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui fait que les entreprises ferment. C'est le capitalisme qui fait qu'on est à 3 millions de chômeurs. On veut prouver qu'on peut travailler en ayant des salaires dignes, mais en même temps avec un respect du consommateur, le respect du producteur. Et ça, c'est, voilà, ça, si on y arrive et qu'on montre qu'il y a une alternative à leur système, et leur château de cartes, il s'écroule. Quand on aura notre usine et qu'on va démarrer, ben, ça va être une autre sorte de lutte, parce qu'ils ne vont pas en rester là. C'est une lutte de classe. Il faut arrêter de se battre quand il y a une fermeture d'usine pour un chèque. Il faut garder les emplois. Normalement, ce n'est pas à nous à se battre. Normalement, c'est au gouvernement. Au gouvernement, à faire en sorte que les usines ne ferment pas. Parce que derrière l'industrie française, vous avez des emplois, vous avez des cotisations de retraite, vous avez des cotisations chômage, vous avez des gens qui payent des impôts, etc. Alors on vous dit, les caisses sont vides. Voilà, garde tes usines en France.
Et vous, la Pologne et la Belgique, puisque Unilever a délocalisé une partie de sa production, ça ne vous intéressait pas ? C'est des beaux pays ?
Vous savez, aujourd'hui, entre nous, quand on en parle, on en rigole, on se dit, aller travailler en Pologne pour 400 euros, non, mais c'est bon, ils m'ont rêvé ou quoi ?
Ça, ils vous l'ont proposé ?
Oui, ça, ils nous ont proposé pour 6 000 euros bruts, donc ça fait ?
À l'année.
À l'année. Ouais, donc 500 euros bruts par mois. Donc on en rigole entre nous. Nous, on a dit non, on ne rentrera pas dans le manège. Nous, moi je suis un ouvrier, Eh bien, j'en suis fier, voilà, tout simplement. Et cette fierté, il ne me l'enlèvera pas. Et en 2 ans de lutte, tout ce qu'on est, on a gagné notre dignité. Et ça fait que même si demain, eh bien, on n'y arrive pas, que si demain on s'écrase, eh bien, ça, la dignité, ils ne pourront pas nous les enlever. Et on a décidé de se battre. Et si ce n'est pas nous, les salariés, qui se battons pour les employés, qui c'est qui va se battre pour nous ?
Raison de lutter numéro 1, la fierté.
Merci Olivier, Omar, Elodie, Yves, Hervé, Marc, Henri et tous les autres salariés de Fralib en lutte. Merci Eugène Casselli, merci Sophie Jaillet. C'était un reportage de Gaylor Van Vimerch, Fralib. Dans Grève, il y a rêve, évidemment, il faut suivre maintenant l'histoire soigneusement. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter. À la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Également sur le site Là-bas. Là-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission. Et il y a aussi la page Facebook de Là-bas, si j'y suis. La technique aujourd'hui de Farguerid et Nicolas Lapère. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau, Solène Cordier. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 30-25 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Non, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 30-25, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Êtes-vous prêt à devenir le prochain millionnaire loto ?
Savez-vous piloter un jet,
un hélicoptère ?
Votre passeport est-il à jour ?
Êtes-vous présentable en maillot de bain ?
Saurez-vous garer votre yacht ?
Non ?
Eh ben, pas de problème, je suis là pour vous former, vous informer, vous préparer. Suivez le coach Loto.
Ce vendredi, Super Loto de 10 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Aujourd'hui, grâce aux espaces Info Énergie, on peut obtenir des conseils gratuits et indépendants pour rendre son logement sobre en énergie et profiter des économies réalisées toute l'année. Ou alors, on peut prendre le risque de perdre de l'argent et contribuer au dérèglement climatique. Alors, faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe.
Pour trouver l'espace Info Énergie le plus près de chez vous, adem.fr ou 0810 060 050, prix d'un appel local.
France Inter et le Théâtre National de Chaillot présentent du 17 au 26 octobre Noé Planète, le nouveau spectacle du metteur en scène hongrois Árpád Schilling. Árpád Schilling aborde ici la question de l'immigration à travers la figure des Roms et nous interroge : qui accueillera ce peuple perdu ? Retrouvez Noé Planète de Árpád Schilling dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Les Roms, il en sera question probablement dans l'émission de lundi à 15h de Là-bas si j'y suis. D'ici là, bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut!
François Hollande à Dakar, première étape de son voyage en Afrique. Le chef de l'État doit prononcer dans quelques minutes un discours très attendu sur la politique africaine de la France devant l'Assemblée nationale sénégalaise. Un discours 5 ans après celui tenu par Nicolas Sarkozy. C'était devant l'université Anta Diop. Le chef de l'État se rendra ensuite au mémorial de l'esclavage sur l'île de Gorée, point de départ des esclaves vers les Amériques. Le parquet de Créteil fait appel des condamnations après le procès des tournantes dans le Val-de-Marne. Le ministère public juge le verdict trop éloigné du réquisitoire de l'avocat général, à la fois sur les peines prononcées et sur certains acquittements. Il y a eu 10 acquittements et 4 condamnations, la plus lourde, à 1 an de prison ferme. Un verdict qui continue de susciter des protestations. 30 associations féministes lancent aujourd'hui une lettre ouverte à François Hollande pour un débat public sur les violences faites aux femmes. Elles appellent lundi à un rassemblement devant le ministère de la Justice. Pas de bus à Marseille cet après-midi. La CGT exerce son droit de retrait après une série de menaces et d'agressions contre des agents. Une réunion de crise a lieu cet après-midi. Précision d'Olivier Martoc.
À l'origine du droit de retrait, une bagarre à la gare routière de Bougainville dans les quartiers nord, mercredi. Ce jour-là, un jeune fait du rodéo sur un scooter au milieu des bus et des passants. Un chauffeur lui demande de mettre fin à son cirque car il est dangereux. Le ton monte, on est sur une plateforme RTM, des contrôleurs s'en mêlent. L'adolescent fait partie d'une bande, ses copains rameutés en quelques minutes arrivent pour faire le coup de poing. Bagarre, cinq agents sont légèrement blessés avant que la police n'arrive sur place. Fin du premier épisode. Second round ce matin, cette fois à la suite d'interpellations dans le cadre de cette affaire, des agents de la RTM sont menacés et pris à partie, toujours par des jeunes, toujours en bande, toujours dans ce quartier de Bougainville. Il n'y a pas vraiment d'incident, mais chez les chauffeurs, le mot d'ordre fuse, retrait. Le mouvement fait tache d'huile, la présence de Manuel Valls aujourd'hui à Marseille n'y est pas étrangère. Le président de la RTM, Karim Zeribi, vient d'ailleurs de lancer un appel au ministre de l'Intérieur pour qu'il n'y ait plus de zone de non-droit dans la ville. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Manuel Valls qui s'est rendu cet après-midi dans les quartiers nord de Marseille à la rencontre des associations. Le ministre de l'Intérieur affirme à l'instant que des dizaines de terroristes potentiels sont susceptibles de passer à l'acte en France, en particulier dans les quartiers populaires. Sept suspects ont été mis en examen hier soir après le démantèlement d'une cellule djihadiste le week-end dernier. Des affrontements au Caire en Égypte cet après-midi entre partisans et opposants du président Mohamed Morsi. Les incidents ont éclaté lors d'une manifestation, de protestation contre l'issue d'un procès. Plusieurs responsables de l'ancien régime égyptien poursuivis pour avoir ordonné une charge de dromadaire contre les révolutionnaires de la place Tahrir ont tous été acquittés. Le Nobel de la paix attribué à l'Union européenne. Les dirigeants européens ne tarissent pas d'éloges. La chancelière Angela Merkel vante l'euro, incarnation selon elle d'une Europe pacifique. L'ancien président de la Commission, Jacques Delors, considère ce prix comme un message à la fois moral et politique. Hors de l'institution des critiques sévères, le prix Nobel Lechwalesa surpris et déçu. Pour la présidente du Front National, Marine Le Pen, le comité Nobel s'est discrédité à jamais.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements du jeu des 1000 euros en Loire-Atlantique. Ce vendredi soir, nous sommes à la Chapelle Saint-Sauveur à 20h30 au Centre des Loisirs. Et demain, samedi après-midi, à Saint-Sébastien-sur-Loire à 14h. À très bientôt en Loire-Atlantique.
Le Grand Bain. Sonia de Villers.
L'écrivain Philippe Ross, obligé de publier une tribune de presse pour dénoncer les erreurs qui émaillent son profil Wikipédia. Et vous, combien de fois par jour consultez-vous cette encyclopédie en ligne? Prenez-vous pour argent comptant ce qui y est écrit? Chacun peut y ajouter son grain de sel et modifier celui des autres? Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Le cas Wikipédia, c'est demain, dans Le Grand Bain.
Le Grand Bain, à retrouver tous les samedis sur France Inter, à partir de 16h. France Inter.
Libre. 16h06 sur France Inter, on parle musique. Bonjour Sylvie Chapelle.
Bonjour Delphine, on vous retrouve à 17h.
Absolument.
À tout à l'heure.
Sylvie Chapelle, on parle musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, on parle musique jusqu'à 17h avec un artiste que tout le monde connaît. Il enrichit la chanson française depuis près de 40 ans. C'est assez fort pour le souligner. Son nom, typiquement libanais, signifie « fort et costaud » justement en arabe. Complètement autodidacte, il dit, je cite, « que tout acte musical est un acte d'amour ». Nous sommes heureux de faire une émission dans le domaine « On parle musique » avec Louis Chédid. Louis Chédid, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Je suis très content d'être là.
Comme MC Solar la semaine dernière, vous n'avez pas d'actualité particulière, mais ce n'est pas une raison pour disparaître des ondes. Au contraire, Louis Chédid, je vous citais à l'instant, tout acte musical est un acte d'amour. Vous le donnez ou vous le demandez?
C'est un échange. Hein. C'est sûr qu'un un artiste qui n'a pas d'écho, qui ne trouve pas d'écho, est un demi-artiste, donc il faut quand même qu'il y ait des gens qui vous renvoient de la lumière que vous essayez de leur donner. Et voilà, donc c'est vraiment dans les deux sens. On donne pour recevoir, oui.
Oui, vous dites que la scène est le seul vrai moment où vous n'avez pas d'intermédiaire entre le public et vous, et que si vous leur donnez ce qu'ils attendent, vous recevez en retour un amour,
bien
une
sûr,
chaleur.
Bien sûr.
Le succès, ça s'en va et puis ça revient. C'est absolument une façon de se rassurer, ce contact direct aussi avec le public, de sentir à ce moment-là.
Parce que vous savez, quand on fait des concerts et qu'on se retrouve sur une scène et que devant vous, vous avez des spectateurs qui sont venus pour vous écouter, pour écouter ce que vous avez fait, ce que vous faites, etc. C'est extrêmement... c'est ça la vérité de ce métier. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas justement toutes ces barrières qu'il y a entre le public et les artistes.
Vous dites, c'est ouf, ils sont là. Là, c'est sûr.
Oui,
ils sont là.
On les voit sourire, on les voit pleurer si certaines chansons sont plus mélancoliques, on les voit se lever, danser. Et voilà, et donc toute cette énergie partagée crée la beauté de ce métier, quoi.
On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est le titre de votre dernier album sorti en 2010. Est-ce que vous vous déplacez en concert? Vous allez au concert?
Ah oui. Je vais voir des spectacles. Alors parfois, c'est toujours une curiosité. Et à toute curiosité, parfois il y a des surprises extraordinaires et puis des mauvaises surprises. Voilà. Mais c'est une...
Tous les spectacles?
Non, je ne vais pas tout voir, mais je vais voir certaines choses.
Tous les types de spectacles?
Je vais aussi voir, oui, du théâtre, des choses comme ça. Et j'essaye. Enfin, je